France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La foi, la tradition et l'humour sont indissociables dans la vie de Gilbert K. Chesterton et dans son œuvre. S'il est facile d'être pesant et difficile d'être léger, si l'on peut se demander avec le père du père Brown sur quel sujet peut-on faire des plaisanteries sinon sur des sujets sérieux, on doit bien constater que Chesterton, comme tout bon humoriste, ne manquait pas de s'impliquer lui-même. Gilbert K. Chesterton, ce conservateur révolutionnaire, pratiquait l'humour métaphysique. Il ne pouvait qu'être l'un des écrivains célébrés dans l'émission Heures de culture française, une série consacrée aux humoristes anglais. Première diffusion sur France Culture le 29 janvier 1969.
Nous écouterons à présent le 7e exposé de la série que nous consacrons aux humoristes anglais. Mademoiselle Solange Daheiras, maître assistant à la Sorbonne, traitera de Chesterton ou le franc-tireur de l'orthodoxie. Les lectures d'illustration de ce programme seront faites par Patrice Galbeau.
Avant de passer la parole à Madame Solange Daheiras, précisons que l'humour n'est pas un mode d'expression aussi direct que la satire, qui recherche l'effet comique. Mais il se dégage d'une certaine description de l'individu et de la société, où ce qui nous semble courant voisine avec ce qui nous semble déconcertant. En ce qui concerne Chesterton, il semble que cet humour résulte d'un certain nombre de contradictions. Dans le langage qui adopte une certaine légèreté pour exprimer des choses extrêmement graves, ou au contraire, une certaine gravité qui va jusqu'à la grandiloquence pour exprimer les pires banalités. Contradiction dans le comportement des individus à l'égard des situations qu'ils affrontent. Nous pouvons invoquer à ce sujet cette notion de l'absurde qui envahit la philosophie et la littérature contemporaine et qui reflète l'impossibilité dans laquelle l'homme se trouve de s'adapter à sa condition du fait de l'incompatibilité entre les nécessités sociales et ses aspirations les plus profondes.
Chesterton, l'humoriste, est devenu personnage de légende, et le portrait qu'on en fait ressemble trop souvent à une image d'Épinal. On le décrit volontiers se déplaçant dans les rues de Londres, la houppelande noire en bataille et la crinière au vent. Sa carrure massive, qu'il a caricaturée lui-même tant de fois, et sa chevelure en broussailles sont souvent associées à sa truculence, truculence où percent parfois la timidité, la pudeur et la sensibilité de l'humoriste. Plus d'un dessin par lui-même, plus d'une anecdote font allusion à sa corpulence. Il raconte ainsi que, se levant un jour de son siège dans un tramway bondé, il vit trois dames s'asseoir confortablement à la place qu'il avait laissée. Son talent de caricaturiste, sa passion pour le Moyen-Âge, en font tour à tour un dragon débonnaire qui souffle du feu par ses narines ou un lutin dispensateur de bonne humeur. Il apparaît aussi parfois comme un poète lunaire dont l'étourderie est légendaire. Parti de chez lui pour faire une conférence en province, il envoie un télégramme à sa femme, ainsi libellé : « Suis à Market Harborough, où faudrait-il que je sois ?» Chesterton, comme Oscar Wilde et Burne Shaw, aime surprendre et choquer. Il a le goût de l'aphorisme et du paradoxe, qu'il aime présenter sous une forme épigrammatique. Le jeu verbal, dans la plupart des cas, consiste en une juxtaposition de termes contradictoires. Témoin, ces quelques exemples.
Comme le soleil de midi, le mysticisme transfigure toute chose par l'éclat de sa gloire invisible.
Dans un autre exemple, Chesterton souligne la logique apparente des fous.
Le fou, ce n'est pas celui qui a perdu la raison, c'est plutôt celui qui a tout perdu, sauf sa raison.
Ainsi, Chesterton s'attriste à la pensée que si peu d'hommes ont la capacité de rire. C'est l'excès de gravité qui a perdu Satan.
Il est beaucoup plus facile de faire un bon article de fond dans le Times qu'un bon mot à table. Car le rire n'est pas le propre de l'homme, mais bien la gravité. Il est facile d'être grave et pesant, Difficile d'être léger. Satan tomba, entraîné par sa lourdeur. Je ne connais vraiment qu'une définition de l'homme saint d'esprit. C'est celui qui est capable d'avoir le sang chaud et de garder la tête froide.
Et cette autre antinomie verbale ?
Rien n'est envoué à l'échec que le succès.
Ici, nous voyons que la contradiction apparente souligne une certaine hiérarchie des valeurs. Un des mécanismes habituels de l'humour de Chesterton est d'opérer un subtil dérèglement de l'ordre habituel des choses. Il suffit de penser à grand nombre de ses pastiches, de ses parodies. Son intuition directe de l'absurdité du monde tend à ridiculiser une logique formelle et figée. Chesterton, en ceci, reprend l'aspect traditionnel de l'humour anglais, tel que le définissait déjà l'essayiste Addison au XVIIIe siècle.
Parfois, vous le voyez affectant un air grave et vêtu avec solennité, parfois dégagé dans son allure et fantasque dans son accoutrement, au point que, selon les moments, il paraît aussi sérieux qu'un juge ou aussi enclin à plaisanter qu'un pitre.
Ce décalage entre le fond et la forme, entre le sujet traité et la manière, est un procédé bien connu de l'humour. Le sens de l'absurde, chez Chesterton, prend parfois un tour cocasse et drôlatique. Ainsi, dans cette histoire intitulée « La maison du paon », il s'agit d'un homme qui veut prouver que la superstition est pure niaiserie. Il installe un paon sur sa pelouse, encombre sa maison de miroirs fêlés, fonde un club de 13 membres, obligeant chacun d'eux à passer sous une échelle. Il croise tous les couteaux sur la table de la salle à manger et renverse la salière sur la nappe. Un cousin arrive inopinément et, saisi d'une pieuse horreur, jette du sel par-dessus son épaule. Ce geste quasi blasphématoire entraîne la mort du dit cousin, que l'on découvre dans une poubelle. Nous voyons que, dans cet exemple, Chesterton se rattache, à bien des égards, aux auteurs de l'absurde. Il suffit de penser à Beckett. Et l'auteur conclut l'histoire en déclarant que ce n'est pas la mort honteuse du cousin qui a frappé les invités, mais la coupe des basques de son habit. Dans ce cas, il s'agit d'humour noir, où le grotesque semble démontrer que la raison raisonnante et la logique poussée à l'extrême rendent les hommes fous. Mais l'absurdité des hommes, et celle du monde, est analysée par Chesterton avec un sourire bienveillant. Il use de la caricature, procédé à la fois grossissant et pittoresque, destiné à divertir le lecteur. Témoin, entre autres, son essai sur la musique pendant les repas.
Cette mode, dans les restaurants et les hôtels, qui consiste à agrémenter les repas d'une musique bruyante, me semble illustrer assez bien notre effort désordonné de tout saisir et de tout faire à la fois. Déjà, une tradition vieille comme le monde veut qu'on mange, qu'on boive et que l'on converse dans le même temps. Une quatrième activité ne peut que nuire aux trois autres. Quelle ingéniosité vraiment d'associer une musique que nul ne cherche à écouter à une conversation que, dès lors, personne ne peut entendre. Rappelez-vous de grandes conversations historiques, certaines improvisations charmantes, quelques épigrammes spontanées récitées par les beaux esprits du temps passé. Imaginez maintenant ces épigrammes criées à tue-tête dans le fracas assourdissant d'un orchestre de jazz. C'est, je pense, faire injure à un musicien que de voir dans son art le simple condiment d'une gloutonnerie raffinée ou, ce qui est plus subtil, de considérer boissons et victuailles comme des fortifiants pour supporter sa musique. Sans parler de l'injure, encore plus pernicieuse, faite à cet autre artiste qu'est le maître queue, en suggérant que seuls tambours et trompettes peuvent rallier les convives et les encourager à prendre d'assaut le dîner comme une forteresse hérissée d'engins de mort. Vous n'exhiberiez pas au beau milieu d'un concert de gros pâtés en croûte ou des bouteilles de bière pour endurer jusqu'au bout ce concert. Si donc on n'apporte pas son repas pour écouter de la musique, pourquoi s'accompagner de musique pour prendre un repas?
Nous remarquons dans ce passage le style soutenu et pompeux, les redondances, le ton doctoral, bref, le contraste délibéré entre le ton du passage et l'importance dérisoire du sujet. Et inversement, toujours pour dépayser et stimuler le lecteur, Chesterton s'amuse à traiter de sujets sérieux sur un ton badin. C'est ainsi qu'il parle de saint Thomas d'Aquin.
Il a écrit suffisamment d'ouvrages pour couler un navire ou équiper une bibliothèque.
Dans son autobiographie, il dit de lui-même
« Je n'ai jamais pris mes livres au sérieux, mais je prends mes opinions très au sérieux. »
Il arrive aussi à Chesterton de critiquer l'assurance parfois aveugle de l'esprit scientifique, qui s'enorgueillit de nous expliquer ce que nous ne connaissons pas, alors qu'en fait, il détruit ce que nous étions certains de connaître. Il prend comme exemple Marble Arch à Londres. Et son analyse, cette fois, est métaphorique.
Je vis ce symbole massif de la pensée moderne. Une entrée sans maison, la porte géante de nulle part.
Une autre illustration de sa critique de l'esprit scientifique nous est donnée dans son ouvrage « Les hérétiques », au chapitre 16 intitulé « De M. McCabe et d'une frivolité divine ».
Un critique me fit un jour des remontrances et me dit avec un air d'indignation raisonnable « Si vous voulez absolument faire des plaisanteries, du moins ne les faites pas sur des sujets aussi sérieux. » Je répliquai avec simplicité et surprise « Sur quel sujet peut-on faire des plaisanteries, sinon sur des sujets sérieux ?» Ce qui est foncièrement et réellement frivole, ce n'est pas la plaisanterie irréfléchie. Ce qui est foncièrement et réellement frivole, c'est la solennité irréfléchie. Un homme qui n'est humoriste qu'à demi n'est un homme qu'à demi. Si M. McCabe me demande pourquoi j'introduis de la frivolité dans une discussion sur la nature de l'homme, je lui réponds que la frivolité fait partie de la nature de l'homme. S'il me demande pourquoi j'introduis dans un problème philosophique ce qu'il appelle des paradoxes, je lui réponds que tous les problèmes philosophiques tendent à devenir paradoxaux. S'il me reproche de traiter de la vie tumultueusement, je lui réponds que la vie est tumultueuse. Et j'ajoute que l'univers tel que je le vois est beaucoup plus semblable au feu d'artifice de Crystal Palace qu'à la philosophie de M. McCabe. Le cosmos tout entier est dans un état de réjouissance secrète et intense, semblable aux préparatifs du Guy Fawkes Day. L'éternité est le réveillon de quelque chose. Jamais je ne regarde les étoiles sans imaginer que ce sont des pensées d'écoliers arrêtées dans leur chute éternelle.
On comprend la formule d'un critique selon laquelle Chesterton ne faisait pas des paradoxes, mais il les voyait. Par contre, on a reproché à ces paradoxes de n'être qu'un jeu, un piment dont il abuse. On a pu dire
« On devrait se servir du paradoxe comme de piment pour assaisonner la salade. Or, la salade de Chesterton n'est que piment. »
En fait, nous sentons bien qu'il y a plus qu'un paradoxe verbal dans l'humour de Chesterton. Plus qu'une juxtaposition de mots contradictoires, plus que du piment. Son paradoxe, pourrait-on dire, est une percée dans le réel. L'humour de Chesterton, en effet, a une épaisseur, une densité humaine, parce qu'il est à la fois révélation et protection d'un moi blessé et vulnérable. L'optimisme de l'humoriste n'est peut-être qu'une forme d'inversion romantique. L'humour, semble-t-il, opère une catharsis sur l'artiste. Et contrairement au lyrisme, qui est épanchement, l'humour est un demi-refus, et parfois même la pierre de touche de l'équilibre mental. Il suffit de se rappeler le nom du fou dans cette pièce de Shakespeare, As You Like It. Le fou s'appelle Pierre de Touche. Chesterton suggère, dans un de ses ouvrages, que l'esprit est une manifestation de la raison, siégeant comme un juge au prétoire, mais que l'humour, lui, comporte toujours un élément de subjectivité, un côté fantasque et capricieux qui affirme sa liberté contre un ordre statique et mécanique. Dans le Napoléon de Notting Hill, le paradoxe est un procédé de rhétorique porteur d'un message humanitaire. Notting Hill n'est pas plutôt une ville indépendante qu'elle redevient un empire. Ainsi semble nous dire Chesterton, si on abandonne la liberté à elle-même, elle devient servitude. L'humour ici se manifeste dans ce sens de l'absurde et du relatif. Et pour une fois, Chesterton ne prétend pas apporter de solution. Qui a raison ? Quinn, le personnage qui a inventé Notting Hill pour s'amuser, ou Wayne, celui qui y croyait et a voulu en faire une réalité politique? Qui a raison, le cynique qui considère toute chose avec le sourire, ou le fanatique qui n'a aucun sens de l'humour? Ces deux hommes, aux yeux de Chesterton, sont en réalité les deux lobes d'un même cerveau. Innocent Smith, dans Man Alive, est un excentrique. Un fin tireur qui menace du revolver tous les pessimistes et ne les relâche que lorsqu'ils sont enfin convaincus que la vie a un sens. C'est aussi cet acrobate qui escalade les toits et entre par effraction dans son propre appartement pour s'asseoir dans son fauteuil et boire son porto avec un goût d'aventure. Innocent Smith, c'est évidemment l'innocence. Le regard neuf de l'enfance qui revêt de couleur et de vie l'entourage morne de tant d'êtres désillusionnés. Ainsi, Chesterton réinterprète les truismes en termes de paradoxe. Les truismes étant ces réalités que le familier et l'habitude ont défraîchies et auxquelles la routine journalière a ôté son goût d'aventure. Cet élément de surprise, Chesterton sait le communiquer dans une langue métaphorique et poétique qu'illustre par exemple sa défense de l'argot.
Quand un homme du monde désire protester contre les solécismes d'un autre homme du monde, il se met à débiter un chapelet de phrases toutes faites et aussi dépourvues de vie qu'un chapelet de poissons séchés. L'argot tend à déformer de plus en plus l'idée primitive et finit par la réduire à une valeur toute suggestive. L'argot est métaphore et toute métaphore est poésie. Le monde de l'argot est comme un monde poétique renversé. Il est rempli de lunes bleues et d'éléphants blancs, d'hommes qui perdent leur tête et d'hommes qui courent après leur langue. C'est un chaos de contes de fées.
Comme chez tout humoriste authentique, Chesterton s'implique constamment dans ses observations en un jugement lucide. Ainsi, à propos de sa biographie sur Browning, il déclare
« Il y a dans ce livre très peu de faits proprement biographiques et presque tous ceux qui s'y trouvent sont inexacts. Mais une chose y est quelque part enterrée. Je crains que ce soit plutôt ma propre enfance que la biographie de Browning. »
C'est ainsi que Chesterton commence le récit de son autobiographie sur un ton de fausse pédanterie.
M'inclinant, plein d'aveugle crédulité, comme c'est ma constante coutume, devant l'autorité toute simple et la tradition des ancêtres, faisant mienne, avec une confiance qui frise la superstition, une histoire dont je ne pouvais à l'époque contrôler la véracité, ni par ma propre expérience, ni de mon propre jugement, je demeure fermement attaché à l'opinion d'après laquelle j'ai dû naître le 29 mai 1874 à Kensington, sur la colline de Camden, et être baptisé selon les rites de l'Église d'Angleterre, dans la petite chapelle de Saint-Georges, face à la tour de la distribution des eaux qui dominait la colline susdite. Je n'entends attacher aucune signification spéciale à une relation possible entre les deux édifices. Je vais plus loin. Je nie avec indignation que cette église ait été choisie tout exprès parce qu'il fallait toute la pression des eaux de la banlieue d'Ouest pour faire un bon chrétien du petit enfant que j'étais. Il est certain que ce que beaucoup de gens nomment témoignage par oui-dire et que j'appelle, moi, témoignage humain, pourrait parfaitement être mis en doute en théorie comme dans la controverse sur Bacon. Par exemple, l'histoire de ma naissance pourrait être inexacte. Je pourrais être le lointain héritier du Saint-Empire romain. Ou bien, étant ce nourrisson abandonné à Kensington sur le seuil d'une porte par des coupes jarrées de Limehouse, n'être que le produit d'une hérédité abominable et criminelle. L'une ou l'autre des méthodes appliquées par les sceptiques à la recherche de l'origine du monde pourrait servir à rechercher ma propre origine. Tel enquêteur, grave et pesant, pourrait même aboutir à cette conclusion que je n'ai jamais vu le jour. Je préfère penser que mon lecteur et moi avons cela de commun que nous avons tous deux le sens commun, et que ceux qui liront ces lignes auront la patience de se contenter de l'ennuyeuse abrégé de faits exempts de commentaires.
Nous voyons que, selon l'expression d'un critique, dans ses divagations les plus folles, l'humoriste obéit à une règle. Il y a de la raison dans ses lubies, de la prudence dans son audace. Chesterton est à bien des égards un conservateur révolutionnaire, le défenseur paradoxal de l'ordre, le franc-tireur de l'orthodoxie. Ainsi, pourrait-on dire, l'humour de Chesterton a une fonction métaphysique. Dans L'homme qui était jeudi, nous sommes en présence du Conseil des anarchistes d'Europe centrale, groupe de 7 conjurés dont chacun porte le nom d'un des jours de la semaine. Ils choisissent un lieu particulièrement public pour discuter à haute voix de leur complot. Il s'agit d'assassiner le tsar de Russie. Ils se trouvent sur le balcon d'un hôtel qui domine l'Est Square à Londres et qui plus est, juste au-dessus d'un policier en faction. Or, chacun d'eux, l'un après l'autre, à la suite d'aventures d'une absurde invraisemblance, révèle son identité d'agent secret de Scotland Yard. Le mystérieux individu qui les a choisis n'est autre que Dimanche, le grand chef des anarchistes. M. Lasvernias, dans une étude critique sur Chesterton, analyse ainsi le double message de cette œuvre étrange.
On dirait que l'artiste a voulu écrire son roman pour Dimanche. Comme les fidèles du Moyen-Âge bâtissaient pour le Seigneur une basilique d'une grandeur émouvante, mais où les gargouilles venaient jeter leur profil ricanant. L'homme qui était jeudi se révèle ainsi sous sa forme double, de farce et d'offrande, comme le plus flamboyant des romans gothiques de Chesterton.
Chesterton semble nous révéler que l'humour est un des attributs de Dieu, et jeudi est en quelque sorte l'humoriste divin. L'humour de Chesterton a donc aussi une fonction existentielle. On serait tenté d'appliquer à Chesterton la formule de Matthew Arnold sur l'humour qui, selon lui, est une critique de la vie. Pour Chesterton, l'humour est comme un instrument d'initiation au secret de Dieu.
Credo quia absurdum, credo quia impossibile.
Il écrit dans un langage de paradoxe parce que, pense-t-il, l'essence même de la vérité réside dans les paradoxes et par-dessus tout dans le paradoxe suprême du christianisme. Chesterton nous dit un critique.
Défend le christianisme comme Macaulay la constitution anglaise. Il le loue d'abord de n'être point logique.
La partie la plus célèbre de son œuvre est la série des histoires policières du père Brown. C'est un petit curé catholique qui résout, grâce à son bon sens ou à son sens de l'humour, les énigmes en apparence les plus obscures. L'innocence du père Brown, comme celle d'Innocent Smith, permet de voir et de saisir le réel. L'innocence, pourrait-on dire, mène à la connaissance. Le paradoxe ainsi devient métaphysique quand la contradiction n'est pas seulement dans les mots, mais dans la réalité exprimée. Les paradoxes de Chesterton, selon l'heureuse formule d'un critique,
sont des pensées vivantes, dépouillés des uniformes défraîchis dont les avait parés la timidité et la paresse intellectuelle des hommes.
Ces paradoxes sont le signe d'une intuition métaphysique de l'être. Ainsi, la vision d'un ivrogne peut être aussi une vision de grâce. Témoin ces quelques vers d'inspiration shakespearienne.
Mon rêve se brisa, et le cœur frémissant, au fond de la taverne où je dormais, je vis l'image de mon existence toute de grâce, sur le visage blême et bêté d'un ivrogne damné.
Nous voyons bien que Chesterton n'est pas un faux naïf, comme a pu le suggérer la légende, qui voudrait l'identifier à la fraîcheur naïve des nursery rhymes. Telle est au contraire la stratégie de Chesterton, le journaliste polémiste. Faire éclater l'esthétisme décadent et pessimiste de la fin du siècle qu'incarnait à ses yeux Oscar Wilde. L'originalité de sa pensée, semble-t-il, consiste à utiliser le paradoxe pour plonger aux racines mêmes de l'être et du langage, et pour redécouvrir la fraîcheur de l'enfance qui n'a rien de commun avec la naïveté de l'infantilisme. Il suffit de penser à son essai sur la défense de l'absurde où le style imagé fait apparaître le visionnaire.
Il y a un abîme entre l'esprit satirique qui, voyant la caractéristique du Kaiser dans ses moustaches, s'amuse à les dessiner de plus en plus grandes. Et le sens de l'absurde qui, sans raison aucune, imagine que ses moustaches iraient aussi bien à l'archevêque actuel de Canterbury s'il venait, dans un accès de démence, à les laisser croître sous son nez. Pendant des siècles, la religion s'est efforcée d'enthousiasmer l'homme devant les merveilles de la création, mais elle a oublié qu'une chose ne peut être entièrement merveilleuse tant qu'elle reste sensée. Tant que nous regardons un arbre comme un objet palpable, et raisonnablement créé pour servir de pâture à la girafe, nous ne pouvons pas nous émerveiller devant lui. C'est lorsque nous le considérons comme une vague prodigieuse du sol vivant s'élevant vers les cieux sans aucune raison particulière que nous retirons notre chapeau au grand étonnement du gardien du square. Comme la lune, patronne de l'absurde, chaque créature a plusieurs aspects. Considéré sous l'un de ces aspects, un oiseau est une fleur libérée de l'attache de sa tige. Un homme est un quadrupède qui fait le beau sur ses pattes de derrière. Une maison est un chapeau gigantesque destiné à nous protéger du soleil. Une chaise est un appareil à quatre pieds, destiné à soutenir un éclopé qui n'en a que deux.
La tradition bien comprise, et non pas le traditionnalisme, qui est une façon tronquée et figée de rester attaché aux traditions, sinon à la tradition, le retour aux valeurs médiévales, le goût de la vie dans toute sa truculence rabelaisienne et l'exercice impitoyable du bon sens peuvent, selon Chesterton, bouleverser le monde plus sûrement que toutes les révolutions. Témoin cet extrait tiré du même essai sur la défense de l'absurde.
L'absurde et la foi, aussi étrange que ce rapprochement puisse paraître, sont les deux affirmations symboliques de cette vérité qu'il est aussi impossible d'extraire l'âme des choses au moyen d'un syllogisme que de pêcher le Léviathan au moyen d'un hameçon. La personne bien intentionnée qui, ne s'attachant qu'aux apparences logiques, a déclaré que la foi est une absurdité, ne sait pas à quel point elle a dit vrai. Cette pensée pourrait bien lui revenir un jour sous cette forme nouvelle. L'absurdité, c'est la foi.
Ainsi, pour Chesterton, foi, tradition et humour sont indissolublement liés. Dans son ouvrage intitulé « Orthodoxie », Chesterton identifie la sagesse divine aux caprices et l'ordre de la nature aux merveilleux des contes de fées. Ainsi, paradoxe et orthodoxie sont liés et se complètent l'un l'autre. C'est ce qu'il nous explique en un jeu verbal où il excelle.
Quand vous entendez une réflexion traitée de paradoxe, enquérez-vous d'abord du « dox ». Demandez depuis quand ce « dox » existe, combien de personnes croient en lui, combien de fois il s'est avéré exact dans les faits, combien de fois des hommes raisonnables s'y sont référés en théorie. Poursuivez-le, traquez-le, bref, demandez-vous si ce « dox » est bien orthodoxe.
L'orthodoxie, comme nous le voyons, est donc pour Chesterton une réalité dynamique, vivifiée par la présence même du paradoxe. Ainsi, l'humour de Chesterton a non seulement valeur de communication, mais encore valeur de message. Mais suivons plutôt le conseil de Chesterton dans un article qu'il écrivit sur l'humour.
L'humour est un terme qui refuse de se laisser définir et se targue d'être indéfinissable. Ce serait se donner auprès d'autrui la réputation de manquer d'humour que de chercher une définition de l'humour.
Pour Chesterton, l'humour, comme la grâce, s'oppose à la pesanteur. C'est ce que l'auteur paraît suggérer dans cet aphorisme savoureux.
Les anges peuvent voler parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère.
Vous venez d'entendre le 7e exposé de la série que nous consacrons aux humoristes anglais. Mademoiselle Solange Deras, maître assistant à la Sorbonne, a traité de Chesterton ou le franc-tireur de l'orthodoxie. Les lectures d'illustration de ce programme étaient faites par Patrice Galbout.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 janvier 1969.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. A starched white shirt. You will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on. Forks and knives.